repentant qui plaît à Dieu, un cœur repentant qui plaît à Dieu, oui, le cœur qui plaît à Dieu ne peut qu'être repentant. Il est impossible de plaire à Dieu sans avoir un cœur repentant. Pas le cœur repentant d'il y a 20 ans, ou le cœur repentant d'il y a 10 ans, de 6 mois, ou de, mais le cœur aujourd'hui, repentant. Et nous devons toujours être sur nos gardes, et toujours vigilants. Dieu est un feu dévorant, et il veut que nous puissions avoir une crainte respectueuse. Noé, il avait une crainte respectueuse, il a construit un grand bateau, hein, parce que Dieu lui avait demandé, pas parce qu'il avait l'idée de le faire. Abraham, il avait une crainte respectueuse, il a été là où Dieu lui demandait d'aller. Et David, il a une crainte respectueuse aussi, également après avoir fait une faute. Et j'aimerais bien qu'on puisse aller voir. David, il est vraiment l'exemple d'un cœur repentant, d'un cœur selon Dieu. Un cœur selon Dieu. Et j'aimerais bien qu'on aille voir dans Psaume 30, 32, si vous voulez bien. Le Psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Voilà, donc tant qu'il se tenait, sans ouvrir son cœur, sans ouvrir la porte toute grande à Dieu, en cachant son péché, il gémissait, il n'était pas heureux. Il était vraiment mal, très mal. Et puis, il a avoué, il a dit, je vais arrêter de me taire, je vais dire à Dieu ce qui ne va pas. Et je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pardonné. Parce que Dieu n'est pas celui qui pointe le doigt, il est celui qui prend dans ses bras, celui qui demande pardon. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que nous savons que Dieu ne nous juge pas, il vient avec une parole qui vise quoi? Notre restauration, qui vise notre réhabilitation, qui vise notre transformation, qui vise un renouvellement. Il y a une mort à soi-même à acquérir. Il faut avouer et reconnaître. Et c'est important, et c'est ce que David a fait. Et alors, il a été complètement transformé. Et nous pouvons le lire dans le psaume 51, vous savez, vous connaissez aussi, c'est la même expérience. Le verset 5, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Voilà, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et il avoue cette transgression, il avoue. Purifie-moi, verset 9, avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il y a des beaux chants comme cela. Hein. Fais-moi entendre des cris d'allégresse et de joie et les os que tu as brisés. Parce que quand on garde le péché à l'intérieur de son cœur, on se consume. Et nos os sont comme brisés. Mais ils se réjouiront à partir du moment où on confesse nos péchés, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, Dieu va détourner son regard de ses péchés. Verset 11, il va effacer toutes nos fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Verset 12, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Parce que quand nous revenons à Dieu, nous demandons pardon, qu'est-ce qui se passe? La joie est activée au fond de nos cœurs. La joie est véritable. C'est pas une joie artificielle. C'est pas une joie externe. Mais c'est une joie intérieure. Parce que nous savons que nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Et quand nous sommes purifiés, nous avons confiance dans son amour et dans son pardon. Il nous purifie vraiment au plus profond de nous-mêmes. Délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta justice. Parce qu'il avait malheureusement fait tuer le capitaine Uri pour prendre sa femme. Et pourtant Dieu lui a pardonné. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié, verset 19. Tu ne dédaignes pas. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est pas tout ce que je peux faire pour Dieu. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Et Dieu veut faire bâtir son église avec des esprits brisés. Et il n'y a que comme ça que Dieu pourra voir et comprendre, connaître. C'est ce qu'il veut voir. C'est des esprits brisés. Est-ce que nous sommes brisés? Est-ce que nous sommes passés par le creuset, par le brisement de Dieu? David est passé par le brisement. Et c'est pour ça que Dieu a pu dire de lui que c'est un homme au cœur de Dieu. Un cœur qui a été brisé. Le péché a produit quelque chose de néfaste, mais il est revenu à Dieu. Et il a demandé pardon de tout son cœur. Il s'est humilié. Et il a été transformé parce que Dieu est plein de compassion. C'est pas un mot qui se trouve dans la Bible, simplement, mais c'est une parole de vérité. Dieu fait compassion. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et sa bonté, c'est pour ceux qui le craignent. Et craindre Dieu, c'est le respecter. Et respecter Dieu, c'est obéir à ses commandements. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour, n'est-ce pas? Et Dieu nous aime. Le summum de la loi, c'est pas tu ne dois pas, tu ne peux pas. C'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et celui qui nous l'a démontré, c'est qui? C'est Jésus qui a prouvé son amour en venant, en mourant pour nous. C'est lui qui a prouvé, il nous a aimé le premier, et Dieu nous a aimé le premier puisqu'il a envoyé son Fils. Et puisqu'il nous a aimé de cette manière, nous devons revenir à Dieu, parce que nous avons crucifié Jésus d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Nous l'avons crucifié, nos fautes ont crucifié Jésus. Et ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien, vous êtes parfait. Nous ne sommes pas parfaits, il a été dit par Sandrine. Nous ne sommes pas parfaits. Alors nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 12, versets 20 et 21, sur la dia suivante. J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas comme je le voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. J'ai peur qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qu'ils ne se sont pas détournés de l'impureté, de l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils se sont livrés. Il allait revenir pour la troisième fois à Corinthe, et il avait certaines craintes. Paul avait certaines craintes, parce qu'il avait travaillé parmi eux pendant 2 ans, et c'était au travers de son ministère que cette église avait été implantée dans la ville de Corinthe, une ville où il y avait la débauche, par rapport à l'idolâtrie. C'est une ville très idolâtre, et il y avait de la débauche au travers de cette idolâtrie. Et Paul, le serviteur de Dieu, le pasteur, il est préoccupé, il est l'apôtre aussi, mais il a officié aussi comme pasteur, parce qu'il s'est occupé du soin des brebis, et il est préoccupé par la maturité spirituelle des croyants de Corinthe. Il est interpellé par cette maturité. Il dit pas, j'ai annoncé la parole. Bon, maintenant, j'espère qu'ils vont écouter et qu'ils vont obéir. Mais moi, je me tourne vers d'autres personnes. Non, il est toujours interpellé et intéressé par l'âme de ceux à qui il a annoncé la parole. Parce qu'un pasteur se soucie de ses brebis. Et Jésus dit dans Luc 24, verset 47, « La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, seront prêchés à toutes les nations, commençant par Israël, bien sûr. » Et c'est bien la volonté de Dieu que cette repentance, suivi du pardon, parce que quand on se repent, et on ne doit plus se laisser accuser par le diable. Hein, parce que il y a l'accusation de nos frères, l'accusateur de nos frères, qui vient toujours reprendre, je vais dire, c'est cette marque de nous frapper avec nos fautes que nous avons faites dans notre passé. Le passé nous revient comme un boomerang. Mais non, si j'ai demandé pardon, c'est tout, c'est terminé. Même si je repense encore à quelque chose qui s'est produit dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, peu importe à quel moment c'est arrivé, à l'âge plus avancé, peu importe. Mais si je l'ai confessé, Dieu ne s'en souvient plus, et moi je ne dois plus me souvenir, l'ennemi vient me le rappeler, mais je dois me rappeler aussi que j'ai demandé pardon, sinon je vais vivre dans la culpabilité sans cesse. Alors, pour certains, la repentance est un changement d'idée sur l'identité de Christ. Un changement d'idée sur l'identité de Christ. Ils veulent dépouiller la repentance de sa vraie signification et de tout lien avec le péché. La repentance est effectivement un lien très fort avec le péché, il n'y a rien à faire. La repentance est alors vue comme un synonyme de la foi qui n'implique pas le fait de se détourner du péché. J'ai la foi, demander pardon, mais c'est un peu comme la foi. Et je ne dois pas vraiment me demander pardon. Ça a été accompli à la croix, c'est une histoire passée, on ne revient plus là-dessus, allez, on continue. Mais non. Mais tout au contraire, la repentance est un changement de vie, un changement d'orientation, un changement total. Ésaïe 55, verset 7, dit ceci, prophète Ésaïe, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. On peut croire à certains moments, mais quelquefois nous nous trompons parce que nous sommes faillibles. Hein? Je ne crois pas que sur la terre il y ait quelqu'un d'infaillible d'ailleurs. Nous sommes tous faillibles. Et Jean-Baptiste a insisté sur la repentance dans Matthieu 3, verset 2, verset 8. « Changez d'attitude, repentez-vous, produisez du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Il y a un changement de pensée, de conception, il y a une transformation d'attitude, un changement de vie aussi que Dieu va opérer par l'Esprit-Saint une fois que nous aurons demandé pardon. Il y a la métanoïa de Dieu qui est active. Il y a une part de l'homme et puis il y a la part de Dieu. Dans le pardon, c'est la part de Dieu qui va mettre une paix extraordinaire. Mais il y a d'abord un changement. J'allais dans cette direction-là et puis je me tourne et je vais dans l'autre direction. Je vais vers le Christ, d'accord? J'allais dans le sens du monde, hein? Et le monde est en train d'aller dans ce sens-là et puis. Et quand on se détourne de l'esprit du monde et du péché, on va dans l'autre sens, 180 degrés. On tourne de 180 degrés, d'accord? Jésus en a parlé, c'est un changement de conduite, un changement de vie qui suit la repentance. Il doit y avoir des fruits qui vont accompagner cette repentance. Les 12 aussi en parlent. Paul, changez d'avis, reconnaissez la vérité. Reconnaître la vérité, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Il y a un changement d'avis, un changement de mentalité, un changement de perspective. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre conscience a été vraiment attristée, il y a eu vraiment une conviction que quelque chose ne fonctionne pas, n'est pas droit, n'est pas juste. Et cette demande de pardon, elle est pressée par une tristesse, il y a une tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Je crois que c'est important, il faut pas se dire « moi je ne suis pas de nature à être triste ». Je suis plutôt joyeux. Mais par rapport au péché, vous croyez qu'il est possible d'être joyeux dans le péché? Ce serait pas normal, ce serait pas conforme. Il est normal d'être dans la tristesse pour justement donner à Dieu ce qui ne va pas, ce qui dérange la sainteté de Dieu dans nos vies. Acte 26, verset 20, Paul dit ceci, « Je leur ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu par une réelle conversion, en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur, de se repentir, de se tourner vers Dieu par une réelle conversion, en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. » Je crois que c'est important, c'est important. Alors, la métanoïa, c'est le changement de mentalité, d'intention. C'est une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Il y a une douleur d'offenser Dieu. Il y a une douleur d'avoir offensé Dieu. Il doit y avoir une douleur. S'il n'y a jamais eu de douleur dans vos cœurs par rapport au péché, alors c'est que vous êtes parfait. Et je vais aller vous féliciter après le culte. Vous allez venir ici, vous allez publier que vous êtes parfait. Et c'est fantastique, on va vous prendre en photo, on va vous encadrer et le mettre ici au mur. Comment ? Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est, évidemment, c'est une blague, on ne le fera pas. Proverbe 28, verset 13. J'aimerais bien qu'on aille voir Proverbe 28, verset 13. Je pense que, bon, là, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Je crois qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le fait de reconnaître ses fautes, de reconnaître que on a gaffé, on a été à côté, on a pensé quelque chose de travers, on n'a pas été juste par rapport à ce qu'on a vécu, qu'on ait parlé, qu'on se soit comporté au niveau de l'attitude, du comportement, de la façon d'être. On n'a pas été droit, on a agi indépendamment de Dieu. Nous n'avons pas eu la pensée de Dieu, nous avons eu la pensée de l'homme. Et la chose est d'abandonner. La deuxième, donc reconnaître, il faut reconnaître, il faut un esprit pour reconnaître l'esprit de connaissance, que Dieu nous fasse connaître qu'est-ce qui se passe au fond de nos cœurs, que nous puissions discerner au fond de nos cœurs mais ce qui est de l'homme, ce qui est de Dieu et ce qui est du diable, ce qui est du monde. Nous devons faire des distinctions. Il y a des choses, on peut croire que Dieu nous parle, et quelquefois c'est nous-mêmes qui nous parlons à nous-mêmes. On doit faire cette différence. On doit faire la différence entre la voix de Dieu et notre voix personnelle, ou la voix des autres qui nous influencent. Nous devons absolument, systématiquement faire la différence entre notre voix, celle des autres personnes, celle de Dieu, celle du diable, celle du monde. Nous devons distinguer ces choses. Nous devons passer plus de temps devant Dieu pour reconnaître quelle est la voix qui nous parle. Qui nous fait marcher, qui nous fait vivre, comment nous pensons? Est-ce que c'est nous qui pensons? Est-ce que nous avons été aidés par Dieu? Dieu renouvelle nos pensées. Quand je suis dans la présence de Dieu, mais Dieu veut renouveler nos pensées. Il y a un renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence, vous savez, les profs de maths, ils n'ont pas besoin nécessairement... Enfin, on peut être prof de maths et chrétien, mais je veux dire, si je prépare mon cours de maths, c'est mon intelligence, c'est mon cerveau, c'est mes pensées. Mais Dieu peut agir dans mon cerveau, dans mes pensées. Et laisser Dieu intervenir dans ma façon de voir les choses, c'est très important. Faut-il encore reconnaître la voix de Dieu? Faut-il encore vivre dans la présence de Dieu? Faut-il encore être conduit par Dieu, marcher avec Dieu, se laisser guider par l'Esprit Saint, marcher selon l'Esprit, vivre selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair? Quelquefois, il y en a qui se trompent complètement. Ils croient que ce qu'il sort de leur bouche, ça vient de Dieu, mais pas toujours. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et quand nous avons des voix qui ne sont pas celles de Dieu, nous devons nous en repentir, parce que c'est une faute, c'est un péché. Quand nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, il faut peut-être les placer devant Dieu, sur la balance de Dieu, et que Dieu vous dise lui-même ce qu'il pense de vos pensées, ce qu'il pense de vos paroles. Parce que tout ce qui sort de nos bouches n'est pas l'Évangile, qui que ce soit. La repentance est le premier pas requis dans le processus de la sanctification parce que le péché nuit à la croissance spirituelle. Si nous voulons grandir et que nous laissons un péché dans notre vie, vous savez ce que ça va faire? Ça va caler notre croissance spirituelle. Ça va empêcher notre progression dans le Seigneur. Et c'est ainsi que des gens, pendant 20 ans, 30 ans, ne progressent pas. Les Israélites, pendant 40 ans, ils n'ont pas progressé. Ils sont restés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis leur foi dans le Seigneur. Ils n'ont pas été renouvelés dans ce que Dieu leur appelait à faire et à être. Les promesses de gagner le pays, ils l'ont perdu. Et ils sont venus avec des paroles qui n'étaient pas des paroles de foi. Ils voulaient retourner en Égypte. Et à cause de cela, eh bien, ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Voilà, quand nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, mais sur autre chose, nous risquons de tourner en rond. Moi, j'ai tourné en rond pendant quelques années. Mais à partir du moment où j'ai affirmé ce que Dieu m'avait déjà montré et que j'ai vraiment confessé de ma bouche et que j'ai mis en pratique ce qu'il me demandait, j'ai vu la bénédiction de Dieu sur ma vie. Il m'a fait sortir du désert. Ça a duré 5 ans, mais au bout de 5 ans, j'ai pu sortir. Alors, je vous dis pas que vous allez rester 5 ans dans le désert. Certaines personnes, ils restent 40 ans. Certaines personnes, ils restent toute leur vie et n'en sortiront pas. Mais d'autres, ça va beaucoup plus vite. Et c'est ce que je vous conseille, c'est d'obéir à ce que Dieu vous montre afin de ne pas rester calé dans le désert spirituel. La repentance est un style de vie qui caractérise le chrétien. C'est un style de vie. Et s'occuper des chrétiens pour Paul, qui est un pasteur, qui est un docteur aussi, qui est un apôtre, mais il s'est occupé comme un pasteur des brebis de Corinthe. Eh bien, s'occuper des chrétiens est un aspect essentiel du ministère du pasteur, car il se préoccupe de les appeler à la repentance. Toutes les personnes qui sont dans les églises doivent se repentir, les églises même doivent se repentir. Vous savez, la base du réveil, c'est la repentance, c'est une remise en ordre devant Dieu, c'est se mettre à genoux devant Dieu, confesser ses fautes, confesser celles de notre famille, confesser celles de notre pays, et Dieu va agir. Si tu confesses de ton péché, mais le Seigneur est fidèle et juste pour te les pardonner, purifier ton cœur, purifier ta vie, te purifier de toute iniquité. Mais si tu dis que tu es juste, voilà, tu es juste, mais essaye de le croire, essaye de te convaincre. Mais devant Dieu, vous savez, ces convictions qui ne sont pas justes ne vont pas tenir le coup. Ces auto-satisfactions et cette auto-justification ne conduira nulle part. Elles vont vous bloquer, elles vont vous empêcher d'aller plus loin. L'impénitence cause du trouble pour la personne elle-même. La personne est troublée par l'impénitence. Le manque de repentance trouble la personne. Elle trouble les personnes qui vivent autour de cette personne. Elle trouble l'église dans laquelle elle se trouve. Elle trouble Dieu aussi. Enfin, Dieu n'est pas troublé, mais je veux dire, il est triste. Il est attristé comme l'apôtre Paul était triste par rapport à l'attitude des Corinthiens. Est-ce que je vais vous trouver avec tous ces genres de fautes? Je vous en avais déjà pourtant parlé. Est-ce que c'est ça? Je vais encore devoir corriger. Il n'avait pas fort envie d'aller vers, encore voir toutes ces fautes qui sont là dans la vie de ces personnes. C'est pas facile. Pas facile. C'est pas que c'est quelque chose de, d'impossible à faire, c'est pas quelque chose qu'il rechigne à faire. Il aime les brebis de Corinthe, mais il est affligé et il souffre pour elles. Et le pasteur souffre par rapport au péché qui n'est pas confessé. Le péché qui n'est pas confessé fait souffrir les pasteurs, je peux vous assurer. Et il craint tout cela. Et c'est le verbe phobéo qui nous donne le mot phobie, la peur, l'appréhension profonde qui exprime le grand souci de l'apôtre. Il y a un grand souci, vous savez qu'il parle des soucis qu'il a pour toutes les églises. Et il avait un grand souci pour l'église de Corinthe, un grand souci. Les péchés qui paraissent à Corinthe peuvent être divisés en deux groupes. Il y a deux grands groupes dans les péchés, enfin par rapport à Corinthe. Le premier, c'est les péchés qui détruisent la pureté de l'église. Il y a les péchés qui détruisent la pureté de l'église. Et il y en a trois qui sont mentionnés dans le texte. C'est l'impureté, la débauche et les dérèglements. Et l'impureté, c'est akatharsia, qui est associée à l'immoralité sexuelle répandue à Corinthe. Comme je vous ai dit, il y a de l'idolâtrie, il y a de l'homosexualité, il y a des pratiques sexuelles liées à la pratique religieuse. Hein, dans les cultes païens, il y avait aussi des sacrificateurs, etc., qui pratiquaient par prostitution, des prostituées masculines. Il y avait aussi des prostituées, mais il y avait des prostituées, hein, sacrées, entre guillemets. Et donc, l'immoralité sexuelle était tout à fait normale. Vivre à la Corinthienne signifie coucher avec une prostituée. Nous sommes appelés à faire mourir ce qui est dans nos membres est terrestre, charnel, et c'est même démoniaque, hein, l'impureté. Et Colossiens 3, verset 5 dit ceci, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. En Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Alors, le deuxième, c'est la débauche, pornéa, qui est la source du mot pornographie, pornéa. Parfois traduit par fornication, qui désigne tout acte sexuel en dehors du mariage. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Alors, le troisième, ce sont les dérèglements. Alcelgia décrit les péchés sexuels publics non réfrénés et flagrants. Les orgies, l'ivrognerie et la luxure. Pierre l'utilise pour décrire le vice de l'homosexualité abjecte des hommes de Sodome qui ont tenté de violer les anges. Vous pouvez aller voir ça dans Genèse. Alors, il y a aussi les péchés qui détruisent l'unité de l'Église. Les péchés qui détruisent l'unité de l'Église. Paul veut protéger, préserver l'unité dans l'Église. C'est tellement important que l'Église reste unie. Pourquoi ? Ben, le monde est divisé. Chacun a son idée. Chacun a sa façon de vivre et de faire les choses. Et on se dispute dans les familles, dans la société. On n'est pas d'accord les uns avec les autres. Et c'est normal, c'est la vie charnelle, la vie humaine où personne n'est d'accord. Bon, on peut être d'accord sur les grands principes, essayer de vivre une vie en société avec des lois qui régissent la société. Tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu n'embêtes pas trop ton voisin, tu n'auras pas de problème. Tu fais les choses plus ou moins dans les cadres, le restant on s'en fout, chacun fait son nid comme il veut. Et voilà, c'est la société aujourd'hui. Chacun pour soi, individualiste, et voilà. Mais dans l'Église, c'est pas la même chose. L'Église est appelée à être un corps uni. Ah oui, être uni avec le Christ, uni dans un même esprit, les uns avec les autres. C'est pour ça que le péché de quelqu'un dans l'Église me concerne et vous concerne. Nous sommes tous concernés par le péché. La personne qui a péché doit être consciente de cela, qu'une tâche dans l'Église, c'est une tâche sur l'Église. C'est pas une tâche seulement dans la personne. Nous sommes tous, quelque part, dans la même famille. Et cette famille, il faut la préserver. Cette famille, il faut tout faire pour qu'elle soit belle, irrépréhensible. L'épouse que Dieu est en train de préparer, c'est son Église. C'est une Église pur, sans tache, irrépréhensible, sans rien, sans défaut. Et pourtant, tout le monde s'amuse à essayer de la critiquer, les gens du dehors, comme les gens de l'intérieur, quelquefois. Et bien souvent, elle n'a pas montré l'exemple. Là où elle aurait dû être une lettre lue devant tous, elle a été quelquefois maladroite. peu responsable du fait de garder la vérité. Et c'est dommage. Mais Paul veut préserver l'unité dans l'Église à tout prix, mais pas au prix de c'est pas n'importe comment. Hein. Dieu veut agir avec amour. Il y a des conflits personnels, des divisions. Les divisions sont typiques de l'égoïsme de la société de Corinthe. Un égoïsme et les divisions en sont le fruit. Il y a des querelles hérissent les conflits, les disputes, les dissensions qui caractérisent normalement les incroyants, mais ça se trouve dans l'Église. Des divisions, des disputes, des dissensions. Et les chrétiens doivent s'en garder. Comment est-ce qu'il peut y avoir des disputes? Parce que c'est caractéristique des personnes qui prêchent Christ avec des motifs égoïstes. L'égoïsme permet justement ces querelles. Alors il y a zélos, la jalousie, l'égocentrisme, qui pousse les gens à se protéger, à se méfier des autres, à les voir comme des rivaux. La rivalité dans l'Église, est-ce possible? Il n'y a pas de rivalité normalement. Vous savez que nous sommes tous placés dans le corps avec des dons qui se complètent les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de rivalité. Nous ne sommes pas comme dans un championnat de football. Nous ne sommes pas comme dans une course cycliste. Il faut absolument gagner, sinon, tu n'auras pas le gros lot. Hein. Tu auras le dernier, tu seras peut-être à la dernière place. C'est pas simplement le but de participer, là. Hein. Il faut gagner. Alors, tout est bon pour y arriver. Hein. On voit ce que ça donne quelquefois avec les produits qu'ils prennent. Et donc, n'ayons pas de motifs égoïstes. Mais travaillons à l'unité de l'Église. Dieu est jaloux de son Église. Il veut la préserver parce que l'ennemi utilise tous ces aspects charnels pour détruire le corps, pour détruire l'unité du corps de Christ. Évidemment, c'est son dada, c'est détruire tout ce que Dieu fait. C'est tout à l'inverse de Dieu. Et Jacques 3, versets 14 et 16, on peut voir, hein, Jacques... Dans Jacques, Jacques 3, versets 14 et 16. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Très important de réaliser cela. Les animosités, les thumos, signifient rage ou colère violente. On voit les membres de la synagogue de Nazareth, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Une fois qu'ils avaient lu un texte d'Ésaïe, ils ont voulu le précipiter de rage au-dessus d'une falaise. Mais il est passé au milieu et ils n'ont rien pu lui faire. C'était pas son temps, c'était pas le moment. Mais ils avaient une rage à l'intérieur de leur cœur. Et à Éphèse, la foule d'Éphèse, encore un peu, ils tuaient Paul, hein, ils ont été préservés. Et on voit dans Satan qui rugit, qui veut vraiment, qui a une rage contre l'Église. Dans Apocalypse 12, verset 12, on peut regarder Apocalypse 12, verset 12, le diable, il a une colère énorme contre les enfants de Dieu, énorme. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il lui reste peu de temps, il est animé d'une grande colère. D'une grande colère contre chacun de vous. Ne vous en faites pas. Contre l'église de Bad Villers, il est animé d'une grande colère. Parce que des choses commencent à bouger. Les animosités, les rivalités héritées, décrit les disputes ambitieuses, l'esprit de division et de parti. Et bien sûr, c'est complètement opposé à l'humilité. Romains, chapitre 2, verset 8, si vous voulez voir dans vos Bibles. Romains, chapitre 2. Et le verset 8. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Et donc, cette colère, cette rivalité, les disputes ambitieuses, l'esprit de division et de parti ne vient pas de Dieu, ça vient de la chair. Et c'est opposé à l'humilité. Philippiens 2, verset 3, si vous voulez aller voir dans Philippiens, après les Corinthiens, après Éphésiens, vous avez l'épître aux Philippiens, chapitre 2, et verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. » Si nous parvenons à considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, nous allons être unis. Je vois les autres plus grands que moi. Alors j'ai pas essayé de me battre pour être plus grand qu'eux, puisqu'ils sont plus grands que moi. Et il n'y a pas de problème, parce que qui est plus grand en fait? C'est Jésus. C'est Jésus qui doit être grand. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Et il n'y a pas de comparaison à avoir dans le corps de Christ. Nous ne devons pas nous comparer les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Nos ministères ne doivent pas être comparés. Les églises ne doivent pas être comparées. Chaque église a un rôle à jouer là où Dieu l'a placé. Nous n'avons pas à comparer des églises et des membres d'église. Nous avons à regarder à l'exemple parfait qui est Christ et à lui ressembler. C'est lui que nous devons ressembler. C'est pas être mieux que Pierre, Paul et Jacques. La médisance, c'est catalalia. Ce sont des injures. La mauvaise renommée, placer une mauvaise renommée sur quelqu'un, parler en mal. On avait essayé de déstabiliser l'apôtre Paul à Corinthe. Il y avait des faux docteurs qui étaient venus et lui était mis sur la sellette en finalité. On essayait de mettre sur son dos une mauvaise réputation. Il a dû se battre, il a dû fortifier son ministère. C'était pas évident du tout, mais il a pu rétablir ces choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11, Paul exhorte les Corinthiens à ne pas s'associer aux outrageux. Alors, il y a deux choses, la calomnie et la médisance. La calomnie, c'est chuchoter, c'est une diffamation secrète. C'est plus secret, c'est entre les personnes, mais d'une manière discrète. Et la médisance, c'est plutôt une diffamation ouverte et publique. La médisance, c'est ouvert et c'est public par rapport aux autres. Les calomnies, derrière le dos, et la médisance ouverte, découle de l'orgueil. La parole qui nous montre, ça découle de l'orgueil. L'orgueil fait naître cela. Et ce que ça porte comme fruit, ça engendre des troubles. L'orgueil fait naître les calomnies et la médisance qui engendrent des troubles, et le résultat en sont les divisions qui affligent l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe était vraiment affligée. Et ne permettons pas dans nos églises, de trouver ces choses dans notre église. La grande crainte de Paul serait de voir le Corinthien retomber dans les travers du passé. Parce que les péchés, c'était surtout avant qu'on les pratiquait. Si maintenant que nous sommes devenus chrétiens, nous recommençons à faire la même chose, où est l'œuvre de sanctification? Qu'est-ce que Dieu construit dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu fait? Si je laisse le mal entrer dans ma vie et que je ne demande pas pardon, qu'est-ce qui se passe? Mais je retourne à ce que j'ai vomi. Je retourne à ce que j'ai vomi. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Et Paul, en tant que bon pasteur, désire que ses brebis mènent une vie sainte. Et tous les pasteurs désirent une chose, c'est la santé des brebis, la santé des frères et des sœurs dans les églises. Par amour pour eux, il les appelle à la repentance. C'est nécessaire. C'est pas toujours facile. C'est plus facile de dire, oh, Dieu vous aime, Dieu est bon. Et il a plein de compassion. Mais il faut le dire, c'est très important. Mais si on dit que la belle face des choses, l'Église va faire n'importe quoi. À certains moments, il faut aussi remettre de l'ordre. Il faut aussi que la parole de Dieu puisse être annoncée dans toute sa richesse. Parce que sinon, on va croire qu'on manifeste l'œuvre de Dieu, mais il y a des points qui n'ont pas été sanctifiés dans nos vies. S'il y a des points qui n'ont pas été sanctifiés dans nos vies, de quoi le diable va-t-il se servir? De ces points-là. De tous les points non réglés. Il y avait une personne, elle n'avait pas eu ce qu'elle voulait, elle aurait voulu faire certaines choses dans son adolescence. Et puis, la vie se passe, mariage, tout le truc. Puis à un moment donné, suite à des problèmes, des difficultés, il y a eu le désir de retrouver ce qu'elle n'avait pas eu à l'adolescence, ce qu'on ne lui avait pas permis de faire. Les petits copains, etc., à une certaine époque, et puis, on s'est retrouvé dans l'adultère. Parce qu'on a voulu reconnaître ce qu'on n'avait pas pu avoir, on n'avait pas pu expérimenter. Et voilà que comment une personne qui peut grandir dans l'Église peut retomber, finalement, dans les travers du passé. Ne permettons pas ces choses de se produire dans nos vies. Permettons pas. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. On va le relire, si vous voulez bien. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontards, de l'orgueil, des désordres. Ceux qui ont péché précédemment et refusent de se repentir. C'est triste, c'est une tristesse. Ils ont péché, mais ils ne se sont pas repentis. Je pense que Dieu donne toujours un temps pour se repentir. Il y a toujours un temps. Dieu est patient, c'est-à-dire c'est sa patience qui nous sauve. Heureusement, Dieu était patient 23 ans avec moi. Enfin, je me suis repenti. T'es content, Seigneur. Pour certaines personnes, il attend très longtemps. Pour d'autres, à quelques années, il y a des enfants qui ont reçu le Christ. Billy Graham, 5 ans qu'il avait. Puis il a donné sa vie au Seigneur et il est devenu un grand évangéliste. Mais il a sûrement encore dû demander pardon souvent dans sa vie, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais quand nous venons à Christ, on va de gloire en gloire, comme il a été dit tantôt. C'est de gloire en gloire. Nous ne pratiquons plus les grossiers péchés que nous faisions autrefois. Normalement, on ne vous trouve plus dans une aubette de bus en train de vomir après une nuit de délire. J'espère que ces choses-là n'existent plus. D'accord. Donc heureusement, heureusement, il y a des choses qui ont changé. Merci Seigneur. Mais ça va jusque dans les petites choses évidemment, parce que ça c'est les gros bazars, ça. Mais il y a aussi des éléments dans les pensées, dans les sentiments, dans les façons de voir les choses, dans les attitudes, dans la manière de parler, de vous exprimer, la manière de réfléchir à propos des autres. À propos de Dieu aussi, à propos de vous-même. Si Paul devait en faire le constat par sa visite, il en serait affecté de deux manières. On l'a vu. Oui, il a travaillé 2 ans au milieu d'eux, et son manque, le manque de repentance eh bien, lui fait honte, lui ferait honte. C'est ça qu'il a vraiment peur, c'est le manque de repentance qui fait honte à l'Évangile, qui fait honte à Dieu et qui fait honte à Paul parce qu'il y a travaillé. Et c'est toujours très difficile. C'est une lettre de Christ. Il dit, l'Église de Corinthe, c'est une lettre. Puis quoi, cette lettre, elle est sale maintenant? Non, hein, j'espère que non. J'espère que non. Cette lettre-là, je dois la montrer à Dieu. Elle va paraître dans la gloire. C'est un chandelier qui doit être pur, en or. Le chandelier était fait en or, hein. Chandelier de tabernacle. Et une église, c'est comme un chandelier pour Dieu. On le voit dans l'Apocalypse. Et c'est un chandelier, justement, il y a de la lumière. Elle luit sur la montagne. C'est une lumière qui éclaire la terre. Mais si cette lumière devient ténèbre, s'il y a des ténèbres dans nos cœurs qui n'ont pas été confessées, si nous n'avons pas été visités par l'Esprit de Dieu, si nous n'avons pas confessé ce qui nos manquements, Dieu ne peut pas approuver, Dieu ne peut pas être d'accord, il ne peut pas être content. Et les pasteurs ne peuvent pas être contents, si du moins eux-mêmes sont en ordre avec Dieu, heureusement. Je crois que c'est une chose qui doit être, puisqu'ils sont ils devraient être des exemples. En tout point aussi, comme Paul l'a été, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, disait l'apôtre Paul. Et le manque de repentance, ça attriste le pasteur, ça rend pénible son ministère et mine ses forces, c'est ce qui se passait. Il était vraiment dans un état de difficulté, il avait de la douleur dans le cœur, Paul. Et ça ne le réjouissait pas. Il n'était pas en train de sauter sur place en disant « Waouh, l'Église de Corinthe !» À ce moment-là, il était vraiment dans l'abattement par rapport à cette Église. Ça lui faisait souffrir. Il craint de pleurer de nouveau sur eux. Ça reflète les sentiments de Jésus à notre égard. Dieu veut être content de nous. Hein? Quand un pécheur se repent, qu'est-ce qui se passe au ciel? Il y a une joie extraordinaire, les anges qui entourent le trône de Dieu se réjouissent, et je pense qu'ils font des bonds de joie, d'accord? Aussi haut les bonds de joie que le boiteux qui avait été guéri par Jean et Pierre, là, dans le temple, et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Calme-toi mon ami, t'es dans le temple. Et il avait une joie extraordinaire de la guérison, mais que nous puissions avoir cette joie du salut, comme David. David, il avait la joie parce qu'il savait que Dieu lui avait pardonné ses fautes, il avait confessé, il avait avoué ses fautes. Et quand nous avouons nos fautes d'une manière sincère et que nous délaissons notre péché, Dieu ne nous en tient plus rigueur. Il ne va pas rouvrir le livre un jour quand nous allons près de lui en disant « Hé, tu te rappelles ? T'es pas fameux, hein, ta vie, là, à cette époque-là. » Mais non, j'avais demandé pardon, c'est fini, hein. C'est fini, Dieu ne tient plus rigueur. Si nous avons réellement demandé pardon, si nous sommes réellement détournés de nos fautes, mais s'il reste encore des fautes non confessées, je peux vous assurer, ça va être un blocage, ça va être un problème, et l'ennemi va pouvoir utiliser ces choses. La moindre faille que vous donnez à l'adversaire, c'est par là qu'il rentrera. La moindre faille, le moindre petit péché, oh ça c'est pas grave. Oh c'est pas grave, c'est simplement... Oui, j'ai pas dit à Dieu, mais bon, il faut que personne le sache parce que c'est, je ne veux pas que les autres le sachent, et ni que Dieu, d'ailleurs, il ne doit pas savoir ça. Mais il le sait quand même, hein. On ne sait pas cacher ces choses-là au Seigneur. Alors, nous sommes, tout est à nu et à découvert devant celui qui juge toutes choses. Alors, dans les lettres envoyé aux églises de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, on voit par rapport à Éphèse, eh bien, Jésus dit ceci, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes, à moins que tu te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » À Pergame, Jésus dit ceci, « Repens-toi donc, Apocalypse 2,16, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi. » Thyatire, en Apocalypse 2, versets 21 et 22, vous pouvez aller lire dans votre Bible quand vous reviendrez chez vous, chapitre 2 et 3. Hein. À Sardes, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi, repens-toi. » Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Laodicée, Apocalypse 3:19, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Ouf, il y a 2 églises sur 7 qui n'ont pas été repris pour que Dieu leur demande, repens-toi. 2 églises. Smyrne et Philadelphie ont échappé à son appel à la repentance, pas parce qu'ils n'avaient pas besoin de repentance, pas parce qu'ils n'avaient pas besoin de repentance, mais parce qu'ils se repentaient. Voilà pourquoi l'appel à la repentance ne leur a pas été donné. Pas parce qu'ils étaient justes, parce que vous pourriez dire, ah, moi je suis de l'église de Philadelphie, désolé, hein. J'ai rien à voir avec ça, moi. Vous êtes de Sarthe, de Défesse, hein, ben oui, de Pergame sûrement. Vous voyez, mais Laodicée, hein, d'accord. Mais moi, c'est Philadelphie, hein. Philadelphia, ouais, Smyrne. Mais ils ont demandé pardon. Ils étaient dans une attitude qui plaisait à Dieu. Ils étaient repentants. Là, c'est 2 églises repentantes. Alors, sur les 7 églises, combien doivent se repentir, à votre avis? 7 églises. Toutes les églises. Tous les frères et toutes les sœurs. Nous sommes tous dedans, dans le même panier. Hein? Et je crois que c'est important de réaliser cela. David dit ceci, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, verset 19. « Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Dieu, il veut vraiment que nous soyons brisés sur nos péchés. Nous puissions réaliser que nous l'avons offensé, que nous avons attristé le Saint, celui qui est 3 fois saint. La promesse à ceux qui se repentent et le pardon gratuit et entier de Dieu. Dieu nous pardonne. Il nous purifie. Et je vais demander à Camille de revenir. Elle est en train de revenir. Et on va aller revoir en Jean, premier épître de Jean, verset 1er et verset 9, chapitre 1er, verset 9, excusez-moi. Si nous reconnaissons nos péchés, si nous avons la faculté de reconnaître, il nous faut un esprit de révélation ce matin pour reconnaître notre culpabilité. Pas faire de l'introspection morbide et rester dans, il y a des gens comme ça, j'ai connu une personne, elle n'osait plus prendre la Sainte Cène, c'est bien simple. Donc, pour elle, elle était coupable et, bon, ben, elle restait coupable. Ben non, Dieu nous demande justement de pouvoir faire un tour sur soi-même, un retour sur soi, et puis voir la faute, puis être attristé. Vous savez que dans certains siècles, les personnes étaient là dans la prière pendant 3 jours. Ils restaient dans l'église. Ils étaient dans l'angoisse sur leur péché. L'esprit, l'action de l'esprit à ce moment-là, c'était vraiment de donner des angoisses à ceux qui avaient péché, ceux qui étaient, ils étaient mal dans leur peau, ils demandaient pardon pendant, et après, ils étaient complètement libérés. Et alors, ils pouvaient se donner à fond pour le Seigneur. Là, ils ont eu il y a eu des transformations de vie. Et ces gens ont gagné le monde à l'évangile parce que l'expérience qu'ils ont faite était tellement puissante dans la sainteté de Dieu. Ils étaient convaincus de leur impureté, de leur péché. Ils sont venus devant la sainteté. Ils ont compris que Dieu est saint. Pas compris avec leur tête, pas parce qu'ils l'ont lu, mais parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils ont expérimenté la sainteté de Dieu, et leur vie n'a jamais plus été la même. Ils ont vécu en conformité, ils se donnaient à 100%, ils s'offraient vraiment comme sur l'autel de Dieu au temps d'Élie. Élie a offert un taureau, et le feu du ciel est tombé sur ce taureau. C'est le feu du ciel, c'est pas le feu de l'homme. C'est pas nos dons, nos capacités qui vont nous faire vivre dans l'œuvre de Dieu. Mais le feu est descendu sur une personne. Le taureau, c'est une image de qui nous sommes. C'est une image de qui nous sommes. Dieu veut nous appeler à nous offrir sur l'autel.
sur l'autel de la consécration et que le feu puisse y descendre. Il ne descendra pas si nous ne sommes pas repentants. Il est impossible que Dieu nous utilise dans son réveil sans repentance. Sans repentance, le réveil n'aura pas lieu. Ça, c'est déjà sûr. Sans repentance, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de miraculeux. Il n'y a pas d'œuvre de résurrection dans nos cœurs sans repentance. Il faut qu'il y ait la mort au péché. Il faut vraiment offrir à Dieu nos vies entières, nos péchés, tout ce qui déplaît au Seigneur. Ceux qui refusent de se repentir s'exposent à la correction. Si vous refusez de vous repentir, Dieu va vous corriger. Dieu va vous corriger. Il ne vous laissera pas comme cela. Ne croyez pas qu'il va vous laisser comme ça. Parce que ici, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'Église du Seigneur, autant qu'ailleurs. Et Dieu ne vous laissera pas sans correction. Ne vous en faites pas. Nous allons prier.